C'est l'été, historiquement parlant, se met à l'heure d'été, rien que pour vous. Plutôt que de vous proposer un simple best-of de votre émission favorite, on vous invite à chausser vos baskets en cette fin d'été avec nous pour faire le tour des randonnées pédestres chargées d'histoire dans la Loire et le Rhône. Et tout l'été, et ce, un samedi sur deux pendant une demi-heure, historiquement parlant, va s'exporter afin d'admirer les joyaux du patrimoine à travers les sorties pédestres que peut nous et vous proposer la région d'Entre-Loire et Rhône. Et aujourd'hui, comme pendant tout cet été pour ce dernier numéro estival, elle n'est pas dans les cabines UV, non,
non.
C'est ça. Parce que vous êtes quand même bien bronzée, Claire, je trouve.
Oui, mais justement parce que je marche beaucoup.
Comme souvent, exactement.
Pour ce soleil en
plus. Et voilà.
Pour ce dernier numéro estival, notre Sainte Vierge à nous, et non pas Sainte Vierge, qui n'est pas si sainte qu'elle en a l'air, hein, Claire. Il y a quelques petites choses qui sont pas tout à fait catholiques avec vous, Claire, mais bon, je n'en dirai pas plus. Mais elle est là. On va essayer de ne pas faire d'absence aujourd'hui. Claire Von Kin ou Clairette. Hein. D'ailleurs, ça vient d'où ce surnom, Clairette?
Je crois que c'est dès ma naissance que une personne s'est penchée sur mon berceau en me regardant. Et ils ont dit, oh, elle est jolie cette petite Clairette. Et voilà.
Eh ben, cette anecdote. Bon, alors, on va faire un petit jeu déjà, Claire, si vous voulez bien, dans l'histoire, hein, comme d'habitude. En tout cas, pour le moment, c'est 3 sur 3, Claire.
Oui, tout à fait.
Parfait.
Alors,
il y a 49 ans, jour pour jour, qu'il s'est déroulé le symbole de la fin du rock'n'roll, un nouveau départ vers une nouvelle décennie, la page Elvis Presley qui se tourne définitivement. Nouvelle génération, nouvelle mode musicale, il y a 49 ans. Mais qu'est-ce qui a symbolisé cette fin d'un monde, cette fin du rock, finalement, en ce jour du 29 août 66 Alors justement, Elvis Presley s'était déjà tourné.
Il était déjà décédé.
29 août 66, mais un autre, en tout cas, fait vraiment, notamment plutôt en Angleterre.
Les Beatles ?
Les Beatles. Tout à fait, ça concerne les Beatles. Et qu'est-ce qui s'est passé donc ce 29 août 66 ? Bah, c'est tout simplement à San Francisco, c'est le.
Leur premier grand.
Dernier concert des Beatles à San Francisco. Mais bon, ça concernait les Beatles.
Oui.
Donc, je vous compte, hein, je vous compte juste quand même. Exactement.
Ah
ouais, quand même, il n'y a pas de souci. On va faire un petit jeu, n'est-ce pas, également, durant l'émission.
Il ne faut pas copier.
Ouais, durant l'émission, Claire nous a préparé un petit jeu, D'accord, très bien. Les auditeurs pourront jouer avec nous. Et justement, en l'honneur des Beatles, eh bien, on va écouter tout de suite un de leurs plus gros succès. Il s'agit de Hey Jude sur RVR.
Hey Jude, don't make it bad. Take a sad song and make it better. Remember to let her into your heart. Then you can start to make it better. Hey Jude, don't be afraid. You were made to go out and get her. The minute you let her under your skin, then you begin to make it better. Start
Et oui, les Beatles ressuscitent sur RBR. C'est ce que tu voulais dire, Julien ?
Bah en fait que cette chanson est interprétée et reprise par les supporters d'Arsenal qui font qui glorifient Olivier Giroud à chaque fois qu'il fait des exploits sous maillot d'Arsenal. Et ça Giroud. Fait la 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 Giroud.
Ça fait la 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 la
Giroud.
Voilà, ça fait Giroud, ça fait comme ça. Et ouais, c'est vrai, tu as raison, j'avais même pas pensé.
Petite pensée à Olivier Giroud qui est sélectionné avec l'équipe de France.
Ouais, exactement, et on est satisfait. Alors notre dernière randonnée pédestre de votre été, Claire, c'est maintenant avec notre spécialiste des chemins de la Côte Rouennaise, Claire Van Kien. On va laisser de côté le vin de la Côte Rouennaise pour se consacrer maintenant aux eaux, voilà, aux eaux minérales de Saint-Alban-les-Eaux. Oui. Nous allons nous diriger ensemble vers le site des Gorges du Désert, entre cascades et pureté de l'eau.
Ah oui.
Nous vous proposons une randonnée de 6 km, 2 heures environ de marche pour 435 mètres, on va dire, en moyenne.
Oui,
l'altitude,
Il faut quand même savoir que c'est une randonnée qui est quand même assez difficile. Hein. Bon, alors moi, je dirais quand même que c'est... on lance un avis aux randonneurs
chevronnés. Voilà.
Oui, quand même. Hein, voilà.
Donc, type clair, quoi.
Oui, même un peu moins.
En fait, on prend un étalon, et étalon, c'est clair, en fait, c'est ça. En tout cas, une belle petite randonnée à faire aussi en forte chaleur, j'ai envie de dire.
Oui,
parce que voilà. C'est frais, on a vraiment, c'est un milieu très frais. Bon, évidemment, avec les cascades, avec l'eau, ça donne aussi ce genre très cher.
Alors, c'est vrai qu'on pourrait dire que les Gorges du Désert, c'est un nom qui ne convient pas bien du tout à cet endroit.
C'est
d'ailleurs, c'est un endroit absolument qui est magnifique. Ouais. Il ne s'agit en fait aucunement, comme on le disait, d'un endroit désertique, bien au contraire. On se trouve dans un endroit luxuriant avec la rivière. Et la rivière, c'est...
Ah, c'est une question ?
Ouais.
Ça fait partie de votre jeu ?
Pas encore.
Pas
mais
encore.
C'est quoi le nom de la rivière ?
La rivière, aussi, j'ai sur le bout de la langue, en fait.
La Montouze.
Ah oui, la Montouze. Ah oui, la Montouze. Mais j'avais vu, en plus. Mais attendez, en plus, j'ai un papier en dessous, ça a dû être marqué. Ah oui, remonter la Montouze en suivant. Bah oui, voilà.
Alors là, c'est vrai que cette Montouze, à par endroit, elle fait des cascades absolument magnifiques.
Le barrage de la Montouze aussi.
Oui, alors il y a une barre rocheuse, là, et de cette barre rocheuse tombent des cascades. Mmh. C'est vraiment très, très, très joli. C'est très sauvage, c'est très frais. Et de là, on va pouvoir admirer de très beaux paysages, puisqu'on domine toute la plaine du Rouennais, les monts du Beaujolais.
Voilà.
Vraiment, c'est vraiment très, très joli.
Alors, ces eaux minérales de Saint-Alban, pour arriver jusque dans nos bouteilles, il a fallu tout d'abord une histoire, une belle histoire. Alors, biblique, hein, c'est aussi la source quand même, elle est d'origine biblique, donc on y croit, on n'y croit pas. Mais en tout cas, c'est aussi une légende peut-être qui a forgé ces...
Oui, alors, est-ce que la légende supplante histoire ou vice-versa?
Bon, ça peut servir aussi de campagne un peu publicitaire aussi.
Pourquoi
pas?
Ce dont on est sûr, par contre, c'est que depuis l'époque romaine, la station thermale de Saint-Alban était déjà réputée.
Ouais.
Hein, voilà. Et qu'elle a, bon, après, bien sûr, tombé en désuétude, comme toujours, comme partout, et qu'elle a eu son apogée au 19e siècle. Mmh. Alors là, quand même, il y avait une cure thermale. Il faut savoir qu'il y avait une cure thermale à Saint-Alban. Et il y avait même la ligne du Taco qui avait été spécialement construite pour que les nobles curistes puissent venir jusqu'à Saint-Alban.
Donc, ils étaient transportés.
Voilà, d'accord. Absolument. Absolument. Et donc, qui dit cure thermale dit, bien entendu, casino. Et
ah oui,
hôtel.
Casino, bien sûr.
Voilà, bien sûr. Bien
et oui, parce que toutes les villes là, de cœur thermal en France, elles ont...
Il y a toujours un casino.
Il y a toujours un casino.
Il y a toujours un casino. Ouais. Voilà.
Moi, je suis allé une fois, La Malle ou les Bains, j'étais allé.
Mmh. Ah
et c'est vrai qu'il y avait un casino aussi.
Il y a pratiquement toujours un casino dans les... Oui, parce que les curistes, bon, bah, ça, le soir, bon, ils vont au casino, ça les distrait, c'est sympathique, quoi. Et Saint-Alban a eu son casino, et moi, j'ai vu des vieilles cartes postales avec les dames en grande robe, les messieurs en redingote, c'était vraiment très élégant, hein.
Alors, le départ de ce parcours, vous l'aurez deviné, se trouve à Saint-Alban-les-Eaux. C'est un village, en tout cas, on peut s'arrêter là-dessus. Un village que vous connaissez bien, Claire,
oui,
quand
bien
même.
Oui, bien sûr, j'habite pas très loin.
Village, voilà, côté de Renaison, village d'artistes, de tailleurs de bois, qui se sont perpétués tout au long, notamment du siècle dernier. Des artistes, on va dire, plus ou moins célèbres aussi, quand même, dans ce village.
Oui, absolument.
Alors, est-ce qu'il y a d'autres on va dire, lieux à visiter dans ce village, d'autres endroits, quelque chose
Le village par lui-même, on ne peut pas dire que...
Est-ce que c'est un village qui ressemble, on va dire, un peu maintenant à un village dortoir, comme on disait?
Bah, malheureusement.
Quand même pas.
Bah, si. Malheureusement, parce que à partir du moment où l'usine est partie du centre du village pour descendre près de la D8, là, bah forcément, l'activité est moindre, hein, ça c'est certain.
Et contrairement hein. à Volvic, Volvic, ils ont gardé leur usine
dans le village.
Ouais, dans voilà, le village.
Voilà, Volvic, que je suis allée visiter l'année dernière, d'ailleurs c'est très joli. Hein.
Très joli, on, très ouais, joli. Franchement, on l'encourage. Moi, j'ai visité cet été, on a dégusté, on pouvait déguster différentes bouteilles.
Oui, il y a cette grande boutique, c'est, vrai, là, exactement. C'est sympa comme tout, ouais.
Pourquoi pas y faire à Saint-Amand-les-Eaux, ça ils y font pas ça par exemple.
Il faudrait leur
soumettre.
Faut leur soumettre.
Voilà.
On va leur écrire une lettre.
On va être RVR. Au nom de Jean-Pierre Doroire, hein, pas notre nom. Hein. Moi je prends pas la responsabilité. Hein, donc en tous les cas la randonnée continue. Donc après ce village de Saint-Amand-les-Eaux, on va passer à proximité du parc des eaux minérales de Saint-Alban.
Et oui. L'ancien
donc,
parc.
Voilà donc qui abrite un écosystème assez atypique et donc il est quand même conservé hein, cet écosystème,
ah bah
même,
oui.
si, même si ça a été
oui.
abandonné quand même.
C'est
par,
abandonné, c'est vrai que c'est un petit peu dommage quoi, parce que ça part un petit peu forcément...
Oui, c'est dommage. Donc puis un peu plus loin, vous pourrez admirer une madone hein, notamment, qui est haute perchée et qui possède une vue imprenable
c'est
sur la rivière.
C'est très joli. On grimpe là jusqu'à la Madone, comme ça, ce petit sentier, c'est oui, c'est très très joli.
Et bien sécurisé, ce sentier, j'ai vu.
Ah oui, oui.
Je crois
oui,
qu'il y
oui,
avait
oui,
des
oui.
rampes et
oui,
tout
oui,
ça.
Absolument.
Donc, il y a pas de...
oui, oui, absolument. Oui, oui.
Donc vous voyez, quand on y marche chevronné, on peut quand même.
Non, mais là, le début, la ronde, c'est par la suite quand même. Ouais. Hein, quand on monte au-dessus des cascades et tout ça, alors là, quand même, il faut reconnaître, ça grimpe pas mal. Bah, après, voilà, on prend son temps, on peut le faire, je veux dire.
Alors, une rivière qui, justement, pourrait être vue de plus près au fil du parcours, car vous pourrez vous arrêter au pied donc, des cascades dans les sous-bois. Pittoresque, qui vous invite à un retour en arrière de 300 millions d'années à peu près. Parce que c'est là.
Vous vous
où...
en souvenez, Victorien ?
Ah bah, je m'en souviens.
C'était hier ?
Il y avait. Moi, je me rappelle, j'étais un petit diplodocus voilà. comme ça, et il y avait un T-Rex qui était pas loin en fait. Et,
Jurassic World. Non,
non, non, mais.
Oh, merci, il est où ?
Des rochers volcaniques, hein, c'est ça, oui. Des rochers de lave. Parce que finalement, les sources, c'est ça. C'est
bah, mais voilà, comme bien souvent. On est quand même pas très loin de l'Auvergne, hein.
Ouais, c'est vrai. Donc, pareil, un petit air d'Auvergne quand même.
Ouais, ouais.
Et ensuite, donc votre promenade, ben, va prendre un tournant ensuite, majestueux, puisque nous avons à hauteur du chemin le Châtelu à la sortie des bois, une vue imprenable sur le Rouennais.
Voilà.
Par contre,
voilà.
C'est magnifique. Et c'est ici que s'est érigé un oppidum. Hein,
et voilà.
En roche vitrifiée.
Voilà, alors c'est roche vitrifiée. Alors, c'est assez intéressant. Et on se demande encore, à l'heure d'aujourd'hui, comment est-ce que ces gens, donc l'époque premier siècle de notre ère à peu près, quoi, on va dire, hein, en gros, comment est-ce qu'ils ont pu arriver à faire brûler les pierres pour qu'elles se soudent comme ça entre elles. Alors, il y a tout un tas d'hypothèses qui sont avancées. Finalement, on ne sait pas grand-chose. Il y a aussi le mur du Lourdon,
ouais.
hein, sur les gorges de la Loire, donc celui de Saint-Alban-les-Eaux. Et c'est du granit, c'est des pierres en granit qui étaient mises les unes sur les autres, qu'ils ont chauffé, et qui ont fondu entre elles. Et ça fait comme une vitre un petit peu.
D'accord.
Quoi. Mais c'est dingue pour que la pierre arrive à se fondre. Et c'est, il fallait chauffer ça à des températures exceptionnelles. Donc, on suppose...
Que ça puisse rester dans le temps.
Mais
aussi.
Oui, mais c'est d'accord. Alors, on suppose qu'ils devaient mettre des tas de fagots, y mettre le feu et activer ce feu. Il n'y a pas d'autre solution. Hein. Nous, on pense à ça, mais c'est quand même... c'est un phénomène, ce truc-là. Hein. C'est vraiment sympa.
Puis donc, retour au point de départ, après un dernier joyau de notre histoire, la croix du Châtelu, avec en arrière-plan la plaine rouennaise,
voilà.
Pour terminer, on va dire. Hein.
Oui,
alors, Saint-Amand-les-Eaux, on parlait d'un village d'artistes, on disait, on n'a pas cité ces artistes qui sont passés, par exemple Jean Roupert, par exemple, dessinateur, tailleur de bois, donc plutôt, voilà, qui fut remarqué, on va dire, par la Grande Guerre, hein, notamment également Edmond Cointet, qui est l'ami
oui,
justement,
alors,
de
Jean Roupert, qui fait des sculptures un petit peu, comment je pourrais dire, un peu écarri comme ça. Hein, voilà, c'est un petit peu brut comme
ouais.
ça. C'est vraiment très original.
Voilà, plus récemment, également Jean-Pierre Collier, hein, donc qui a, on va dire, mis sa trace, son empreinte sur le parc, notamment des eaux minérales. Et avant même donc de conclure une randonnée hein, qui creuse, on va dire, tout de même,
oui.
parce que, comme on dit, c'est quand même pour les chevronnés, on peut faire escale dans une bonne adresse de restauration.
Ah, et comment
Tu sais ce que c'est, Julien? la bonne adresse de restauration. Mais je sais que t'es un fin gourmet, donc c'est pour ça que je te dis ça. C'est quoi
ma
de mieux
Ma réputation est faite.
Quoi de mieux dans ce parcours de rêve que de rêver encore plus avec la poésie du
Petit Prince.
Voilà.
Et à
le Petit Prince, le nom de cette adresse archi connue dans la région.
Voilà. Et savoir maintenant aussi que le Petit Prince a ouvert une boutique. Ils ont ouvert une petite boutique avec plein de très très bons produits, des produits bio, de très très bons produits. Donc vraiment une adresse à se souvenir et voilà, c'est bien, c'est bien.
Voilà, alors un petit jeu, c'est ça
Oui, alors pour une fois, c'est moi qui vais vous poser des questions, Victorien, parce que ça va bien. Toutes les fois, il me pose des cols pas possibles.
Bon, bah, Julien, alors, tu m'aides. Hein, parce que,
non, mais c'est hyper simple, ouais, hyper simple. Alors, j'affirme que les gorges du désert se nomment ainsi car l'endroit est très aride.
Ah, c'est faux, ça.
C'est faux.
En plus, ça va, c'était simple. Ça.
Ah, mais c'est facile.
C'est simple.
Alors,
ça, c'est des questions
facile.
Qui sont quand même un peu enfantines, je trouve.
Ouais, hein.
Voilà. Alors, ouais. Claire.
Alors, j'affirme qu'il existe deux chemins de randonnée le long des gorges du désert.
Oula.
Faux.
Ouais, moi, je dirais faux aussi.
Faux.
Yes.
C'est vrai. Alors, j'affirme qu'à Saint-Alban-les-Eaux, il existe toujours, de nos jours, une cure thermale renommée.
Ah non, c'est faux.
Faux.
Et alors, elle a été abandonnée à quelle date?
Je sais pas, je dirais dans les années. Dans les années, on va dire, décennies.
Dans les années,
Non, mais même ça, je sais pas, années 80.
19e?
Eh bien, non, c'est après la guerre de 40.
D'accord.
C'est après la guerre de 40 que la station ferme ses portes. Mais bon, après, ça se reconvertit, quoi. Mais bon, on va dire que son apogée était fin 19e. L'apogée était fin 19e. Hein. De toute façon, après, ça tombe en désuétude, c'est vrai.
Moi, je trouve que c'est bizarre que la cure n'existe plus.
Bah, c'est bien dommage.
C'est dommage. Parce que,
voilà. Et alors, dernière question. J'affirme que de nos jours, Saint-Alban s'est reconverti et vend également alors, de l'eau, bien entendu, de l'eau de Saint-Alban.
Et de la Côte-Rouennaise également.
Non, pas de la Côte-Rouennaise, mais des sodas et des iced tea.
Faux.
Ah non, j'y arrive vraiment.
Ah, alors il y en a des deux qui disent
vrai. J'y arrive vraiment.
C'est victorien.
Ouais.
Effectivement, ils ne vendent pas que de l'eau. Ils vendent également des sodas et de l'iced tea. D'accord.
Mais de l'iced tea, mais marque Saint-Alban ou soda. Mais cette soda marque Saint-Alban, ça doit pas être.
Je peux pas. je peux pas vous
ah voilà,
dire.
Bizarre, prenez notre colle.
Ouais. Mais en tout cas, iced tea et soda, ça se fabrique à Saint-Alban.
Bah, c'est comme Volvic, ils ont un peu.
Tout à fait. Et c'est d'ailleurs ils ont un gros marché là-dessus, voilà. Hein. Très gros marché.
C'est bien pour développer la marque.
D'ailleurs, Saint-Alban, il y a plusieurs sources. Il n'y a pas qu'une seule chose, voilà. Saint-Alban. Hein. Il y a la Faustine, il y a la César, il y a la Saint-Alban.
Elles ont toutes un goût différent, d'ailleurs.
Il paraît. Il paraît.
Je me souviens avoir fait un petit exposé sur l'eau à l'époque où j'étais au lycée Sainte-Anne. D'ailleurs, je passe le bonjour à Jocelyne Perrier si elle nous écoute. Et on a été à Saint-Alban pour faire cet exposé, voir les stations d'épuration, tout ça. Au barrage d'Ornaison aussi.
Oui.
Et on a goûté à peu près
les
différentes sources, les différentes eaux.
Elles n'ont pas tout à fait le même goût. Mais on dit bien que chaque eau a son goût, comme le vin d'ailleurs. Hein.
Et encore aujourd'hui, ça dépend si je prends une Faustine ou une César, je trouve que le goût
n'est pas
le même. Oh là là, ils rentrent dans des trucs d'eau.
Non, mais c'est vrai. Ouais,
Faustine ou César. Ou
Faustine, César.
Quand tu fais un exposé comme ça, après tu vois d'un autre œil.
Ah oui.
Oui, enfin bon, moi j'ai eu 4 sur 4 à la question de Claire, toi t'as eu 3 sur 4. Désolé. Franchement. Les exposés n'apportent rien. Voilà, je le dis aux enfants qui vont reprendre la rentrée. Les exposés n'apportent rien.
Oh oui, il a décidé de nous casser la baraque ce matin. Non, mais ça va pas du tout.
On se prend à rêver dans cette randonnée, hein,
oui,
Claire.
Oui,
voilà,
oui, oui.
Saint-Alban-les-Eaux pour terminer, puisque on est complètement immergé dans les différents éléments, l'eau, la terre. Voilà,
on peut signaler aussi
pousser des ailes, on va dire.
On peut signaler aussi qu'à Saint-Alban, il y a donc cette fameuse maison des Is qui fait des jolies expositions, il y a souvent des expos de peinture, il y a eu même des salons du livre.
Ouais. N'hésitez pas à y aller dans les prochains jours, hein, vraiment, l'été, parce que l'été est en train de se terminer. Donc,
oui, mais il fait encore très très
allez-y.
Beau, très très chaud,
ouais.
Donc c'est vraiment une randonnée à recommander, tout à fait. Hein, voilà.
Exactement. Bah, merci
bien
en tout cas pour votre petit jeu, Claire, en tout cas. Allez, on se retrouve juste après une pause musicale pour un reportage cette fois-ci. qui a été réalisé par notre président de la radio, Jean-Pierre Deroire. En tout le cas, un reportage qui a été réalisé il y a 15 jours. Nous proposons une rediffusion, puisque, historiquement parlant, on se devait quand même de diffuser ce reportage à ample puits à l'occasion de la commémoration du 150e anniversaire de l'épopée vélocipédiste des frères Olivier, Paris-Avignon. Une escale à ample puits. Ils se sont arrêtés à ample puits et voilà pourquoi RVR s'est rendu à cette escale. Dans un instant, en tous les cas, une petite musique, Julien, et surtout un succès qui a fait encore une fois danser. Alors il y avait Cheerleader cet été, mais il y a aussi Renaissance, bien sûr.
Got Chucks on with Saint Laurent. Gotta kiss myself, I'm so pretty. I'm too hot. Call the police and the fireman. I'm too hot. Make a dragon wanna retire, man. I'm too hot. Say my name, you know who I am. I'm too hot. And my band bought that money. Break it down. Girls hit you, hallelujah. Girls hit you, hallelujah. Girls hit you, hallelujah. Cause Uptown Funk don't give it to you. Cause Uptown Funk don't give it to you. Cause Uptown Funk don't give it to you. Saturday night and we in the spot. Don't believe me, just watch.
Just watch. Don't believe.
Allez, Uptown Funk, Bruno Mars, ça donne vraiment la pêche, hein, ce succès de Bruno Mars, évidemment, qui a fait danser tout le monde l'été, même Claire Vankin, bien sûr, qui nous a écoutés pendant tout l'été. Alors, pour terminer, en tout cas, ce numéro estival, eh bien, nous avons été à pied, on va dire, hein, pendant tout l'été. Je vous propose désormais d'appuyer sur la pédale. Il y a 15 jours, désormais, ample pluie, une des escales du voyage Paris-Avignon à l'occasion de la commémoration du 150e anniversaire de l'épopée vélocipédiste des frères Olivier. En effet, le 1er août 1865, Aimé et René Olivier, donc originaire de la région lyonnaise, décide de parcourir à bicyclette les 800 km de Paris-Avignon en 8 jours avec les bicyclettes d'époque, hein, vraiment. Et d'ailleurs, ça a été donc rétabli. Ouais. Donc ce périple, c'est pas grave, ce périple s'est répété il y a de cela 15 jours, retour donc sur l'arrivée à Amplepuis d'historiens, de collectionneurs et de passionnés vélocipédistes venus du monde entier. Ils sont arrivés à Avignon le 23 août dernier, ils sont donc déjà arrivés, mais reportage donc en direct de la place de l'hôtel de ville d'Amplepuis, c'est avec notre président Jean-Pierre Deroire. On écoute ça tout de suite, on se retrouve juste après.
Ce dimanche 16 août sont arrivés à Amplepuis vers 17h, place de l'Hôtel de Ville, sous les applaudissements d'une foule importante, 7 cyclistes sur des machines d'un autre âge qui se sont lancés dans un pari un peu fou, refaire le parcours Paris-Avignon, près de 800 km, que les frères Olivier ont réalisé en 1865 sur un vélocipède. Amplepuis, son musée de la machine à coudre et du cycle, était une étape logique sur les 14 qu'ils feront pour atteindre Avignon le 23 août prochain. Ce dimanche, ces valeureux cyclistes étaient partis de la Pacaudière à 9h et avaient parcouru 58 km. 7 cyclistes passionnés de vélocipèdes, 2 Français, un Franco-Allemand, un Japonais, un Canadien, un Américain et un Anglais, qui se rencontrent avec la même idée, commémorer le 150e anniversaire de l'épopée des frères Olivier, comme le précise l'anglais Stuart Mason Elliott.
Tu vas rire, mais j'ai trouvé sur l'internet, l'année dernière, j'ai lu dans un livre de cet voyage que les frères Olivier a fait, et j'ai me dit, mince, l'année prochaine, ça serait le 150e anniversaire. Peut-être il va monter un statut et on peut clinquer un verre de champagne. Et j'ai cherché sur l'internet et j'ai trouvé que Alain et Kezo a déjà décidé de faire ce voyage avec un groupe sur vélocipède. Et j'ai dû demander si je peux rejoindre. Et j'étais très heureux qu'on dise, on donné l'accord que je peux rouler avec eux. Et puis comme ça, je suis l'Anglais, je représente l'Angleterre sur ce moment très historique dans l'histoire du vélo.
Collectionneur aussi?
Oui, je suis collectionneur, j'ai 3 Grand-Bis et encore une vélocipède.
Alain Cuvier, vous êtes l'incitateur à cette aventure, une histoire un peu folle.
C'est une histoire un peu folle, oui, on va dire que je suis le coordinateur de cette organisation. Et bon, pour nous, c'est effectivement une grande aventure. Et ce qui est très intéressant, c'est qu'on la partage avec des amis de plusieurs pays, puisqu'on représente 5 nationalités.
Tout à fait extraordinaire.
C'est assez extraordinaire, oui.
Comment vous vous êtes retrouvés?
On se connaît depuis quand même plusieurs années, puisqu'on a une association internationale qui nous permet de nous rencontrer une fois par an. Donc c'est un petit peu ce qui a été l'élément fédérateur de ce voyage.
Alors comment vous vous préparez?
La préparation physique s'est faite beaucoup avec nos vélos de cyclotourisme, ouais. Et puis aussi un peu avec ceux-là, puisque moi j'avais quand même fait 300 km avec le mien avant de commencer ce voyage. On parcourt entre 60 et 70 km par jour.
Et pour le japonais, Kezo Kobayashi?
C'est pas facile parce qu'il y a des cultures différentes, mais je me débrouille quand même.
Vous êtes très heureux de participer à cette aventure.
Je suis excité.
Après avoir rencontré un public nombreux et intéressé, ils ont été invités par la présidente du GRAA, Dominique Gouy, à visiter le musée de la machine à coudre et également du cycle, sur lequel ils ont porté toute leur attention. Glenn Norcliffe, le Canadien, le doyen, 72 ans.
Évidemment, pour nous, les vélocipédistes, cette section est très intéressante et il y a quelques bicycles qui sont assez importants, je pense, qui montrent l'évolution du vélo. Oui, c'est bon, c'est bien fait, c'est une bonne collection.
Gilles Talamagne, collectionneur et participant.
Et vous avez une collection qui est très intéressante, des pièces très originales. Hein. Un terreau à chêne la vigne, j'aimerais bien avoir ça chez moi. Un grand bi aussi original de par la section du tube en ovale avec une selle suspendue, c'est admirable aussi. Un tricycle magnifique, là je ne suis pas envieux, j'en ai un chez moi. Un cadran, cadre femme, avec le type de transmission qu'il y a dessus et à chaîne à bloc et avec un patin de frein sur l'arrière commande en dessous de la boîte de pédalier, c'est admirable. Vous avez vraiment de très très belles pièces, très sympa. La présentation est très sobre, moi c'est ce qui m'intéresse. Avec un minimum d'articles, de déco, les affiches sont très très belles, vous avez vraiment des belles affiches.
Carré William, l'Américain, historien, spécialiste des débuts de la vélocipédie en Amérique du Nord. C'est un grand collectionneur des cycles américains du 19e siècle.
It's a great collection.
C'est une grande exposition et que la proximité entre les machines à coudre et le vélo est évidente puisque l'une a permis de créer l'autre. En général, les industriels faisaient les deux.
À quel niveau classez-vous cette exposition ?
Yes, you have a very nice timeline.
Il y a une chronologie dans l'histoire du vélo qui est intéressante à suivre.
It's very good. It's appreciated to see the technology on display. Because in America, you don't have a collection.
Comparé à ce qui se passe aux États-Unis, l'exposition est beaucoup plus riche, c'est-à-dire qu'il n'y a pas cette possibilité de voir aux États-Unis des machines comme celle-là. Donc c'est un oui, il a dit que c'était très bien.
Voilà. Quelle est votre appréciation sur les affiches?
They're beautiful because of the design. And you don't see that the
French. Il y a une touche particulière de l'affiche française qu'on ne retrouve pas ailleurs, qui en fait la qualité.
Aussi un avis éclairé de Keizo Kobayashi, le japonais, participant à cette aventure, historien et chercheur, auteur d'une thèse en 1990 sur l'histoire du vélocipède.
Une très belle collection, et c'est très bien présenté. Et donc c'est l'une des plus belle collection en France et en Europe.
Vous la jugez ainsi?
Moi, je suis sûr, oui.
Cette arrivée à Amplepuis marquera l'esprit des vélocipédistes et des accompagnateurs. Guy Gaudy.
C'est la plus belle arrivée que nous ayons eue depuis le départ. À Montargis, nous avions eu, je pense, de l'ordre de 200 personnes. Je ne sais pas estimer ce soir, mais je dirais que nous avons eu au moins le double, peut-être même 500 personnes. Et puis, il y avait une animation au-dessus de Tourproche avec sonorisation et tout. Franchement, on ne s'attendait pas du tout à ça. Et je pense que les vélocipédistes ont été très satisfait, notamment de voir cette arrivée en format Tour de France avec la foule qui se resserre au fur et à mesure de l'avancement du peloton. Voilà, je crois que ça a été très très apprécié. Et quant au musée, c'est un peu le point d'orgue pour nous parce qu'il y a des splendides machines dans cette exposition et ça, il mérite franchement le détour.
Aimé et René Olivier étaient leur arrière-grand-oncle. Marie-Odile Escoffier et Françoise Debastier étaient présentes en Amplepuis à l'occasion de ce passage dans notre cité.
800 km comme ça, le nez au vent, avec des engins particuliers, chapeau.
Est-ce que vous avez des photos de cette époque ?
Il y a des documents qui ont été pris, mais nous, personnellement, non.
Et alors, la descendance, c'est de quel côté ?
Du côté de ma mère, qui était une Mademoiselle Olivier.
Je suis la sœur, donc, et je suis Madame Debastier.
Alors, qu'est-ce que vous en pensez, vous, mesdames, de cette épreuve, de cette reconstitution?
C'est très bien, mais ça doit être très très dur de pédaler là-dessus.
C'est vrai que c'est un moment un peu magique. Ses frères Olivier ont habité à où exactement?
Alors à Avignon, on a une propriété à Tavel. Et donc lundi, on reçoit tous ces messieurs à Tavel, on fait une réception et avec la famille Olivier, tout le monde. Quoi.
Et il y a beaucoup de descendants?
Oui, il y en a pas mal, oui.
Pour offrir une belle arrivée à Alain Cuvier et ses équipiers qui célèbrent le 150e anniversaire de l'aventure des frères Olivier, parcourir 800 km entre Paris et Avignon en vélocipède, la municipalité, le Graas, le Val d'Orin cycliste et RVR se sont associés. Dominique Gouilly, la présidente du Graas.
Eh bien, je crois que l'ensemble de l'équipe du musée est très contente du monde qui est venu accueillir les vélocipédistes. C'était quand même un moment exceptionnel et nous sommes très contents de l'accueil qui a été fait à ce voyage. Et nous sommes aussi très contents de la visite qu'ils ont fait à l'intérieur du musée et de l'appréciation qu'ils ont donnée sur notre collection de vélos. Cela nous conforte dans dans notre travail et dans notre idée qu'il faut garder ce musée à Amplepuy et qu'il a sa raison d'être.
Plusieurs membres du Val d'Orin cycliste ont accompagné les vélocipédistes sur la fin du parcours. Jean-Marc Guillot, le président.
Oui, c'est vrai, c'est quand même très surprenant de voir ces engins rouler sur la route. On n'a vraiment pas l'habitude. Puis c'est surtout voir la capacité qu'ont les cyclistes à rouler dessus. Entre autres, j'accompagnais un Anglais et son vélocipède faisait 40 kilos, donc c'était pas simple. Alors, l'accueil, moi je suis très agréablement surpris. Bien sûr, on a eu la météo avec nous, mais voir l'arrivée en centre-ville et le public, un couloir de spectateurs, c'était très surprenant et les vélocipédistes ont été agréablement surpris et je suis content et j'aimerais bien que ça se renouvelle dans les années futures.
René Pontet, le maire d'Amplepuy.
Cette manifestation, vraiment, c'était quelque chose d'exceptionnel. J'ai été très impressionné de voir le monde qu'il y avait sur Amplepuy parce que pour un 16 août, c'est quand même exceptionnel et moi je salue vraiment ces cyclistes parce qu'ils ont un mérite, un courage. C'est vraiment impressionnant. Moi j'ai été estomaqué quoi. Et j'en profite pour remercier donc tous ceux qui ont participé, que ce soit le musée avec ses bénévoles, que ce soit le VRC avec les bénévoles, que ce soit RVR avec ses bénévoles. Je crois que c'est une belle leçon qu'on peut donner à tout le monde, cette façon de travailler ensemble. Franchement, beaucoup de communes peuvent prendre exemple.
Une belle journée à Amplepuy qui marquera les livres d'histoire des collectionneurs de vélocipèdes et qui a permis de découvrir qu'en 1865, deux garçons, les frères Olivier, étaient passés par ici pour accomplir leur voyage historique par la Nationale 7.
De retour ici dans cette émission, voilà, après ce fabuleux reportage donc, de Jean-Pierre Derouard, merci bien sûr au président de la radio qui était sur place là-bas à l'hôtel de ville d'Amplepuy. Claire, en tout cas, je voulais également vous remercier pour toute cette saison estivale entre compagnie. On vous laisse maintenant, en tous les cas, continuer vos pérégrinations.
Mais ça a été un réel plaisir de travailler avec vous, avec toute l'équipe de RVR. Merci de m'avoir accueilli bien gentiment. On a passé des bons moments.
Voilà.
Très intéressant et donc affaire à suivre. Hein.
Donc en tout cas, on souhaite beaucoup de courage pour ceux qui reprennent le boulot, rentrée qui va bien entendu arriver. La rentrée, elle aussi, va arriver bien sûr sur RVR. Je voulais également vous signaler que, historiquement parlant, ne serait pas présent en tout cas au mois de septembre, il ne reprendra qu'au mois d'octobre. Le temps de faire quelques modifications, de faire quelques nouveautés. Nous étions là pendant tout l'été, donc nous allons, reprendre un petit peu tout ça, notre format habituel, et puis nous retrouver en octobre. En tout cas, on l'espère. Mm-hmm. Merci beaucoup, en tout cas, Claire, d'avoir fait partie de cette aventure. Merci à Julien, la technique, pendant tout l'été.
Avec plaisir.
Bien sûr. Et puis on retrouvera Alexis, donc, en octobre pour une nouvelle saison d'Historiquement Parlant. Merci à tous. Et très très bon week-end et très bonne rentrée.
Bon à lundi. À tous.
Salut.